comprendre ce que dit l'Église en disant que Dieu est un et en même temps trois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous voyez, il est un en soi. Il est un, Dieu est un, et donc il est un, substantiellement, éternellement. Et il est en même temps trois, donc il est un en soi. L'un en soi. Plutôt que de prendre, vous comprenez, Platon, Parménide, Héraclite, etc., 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 hein. Et puis Sartre, hein, ce serait marrant de prendre Sartre, enfin, ce serait pas marrant du tout, hein. Parce que là, on tombe en enfer, je veux dire, hein, puisque l'enfer, c'est justement l'un pour lui, hein, pas... puisque la destruction de l'un, hein, c'est ça qui fait paradis de l'homme, et donc le paradis de l'homme, c'est l'enfer. Hein. Non, ne vous inquiétez pas, c'est débile. Enfin, donc, c'est mieux de lire, de regarder cette histoire de Dieu est un, et en même temps, il est trois. Vous voyez? Je voudrais vous faire ça, si ça vous intéresse, si ça vous intéresse. Et comme ça, on va essayer de regarder ça. Et à partir de là, je veux pas dire qu'on va essayer de laïciser ça, mais quand même avoir ça. Pourquoi? Parce que ça va nous aider quand même. Parce que j'ai pas envie de vous faire 3000 ans d'expérience philosophique, hein, pour pas vous faire passer le temps. Je préfère vous dire, puisque nous on est chrétiens, il se trouve on peut aussi essayer de voir déjà ce que Dieu dit par rapport à l'un, mais que ce que les saints ont dit. C'est intéressant. C'est au niveau surnaturel, d'accord? C'est pas au niveau philosophique, hein, c'est au niveau surnaturel. Hein, on est d'accord, hein, je suis d'accord avec vous. Mais quand même, ça va nous donner une... ça va nous aider drôlement. Parce que ça va nous faire comprendre que c'est pas du tout un problème qui est nul. Puisque moi, je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je suis un en moi-même. Donc c'est quand même une lumière incroyable. C'est drôlement intéressant pour un philosophe d'essayer de traduire ce que ça veut dire, humainement parlant, que cette doctrine surnaturelle des chrétiens. Donc le philosophe, il peut dire, très bien, je ne crois pas au point de vue surnaturel de ce que disent les chrétiens, mais ça m'intéresse dans sa traduction humaine. C'est ça, c'est dans cet esprit-là, vous voyez, qu'on peut faire en philosophie, essayer de regarder en philosophie ce que dit une doctrine soi-disant révélée et surnaturelle et venant de Dieu. Hein, quand on est philosophe, c'est soi-disant naturel, surnaturel et révélé de Dieu. Soi-disant. Mais moi, je ne prends pas ça en tant que surnaturel, je prends ça en tant que c'est intéressant comme mythe. C'est un mythe qui m'éclaire. Le philosophe, il peut prendre tout ce que dit la doctrine surnaturelle en tant que mythe, de manière à... Tiens, j'ai un point là, intéressant, qui peut m'éclairer, puis je vais prendre ça comme hypothèse pour voir si c'est bon. Pour retrouver ça, vous voyez, comme un point... un poteau indicateur pour éviter de perdre du temps à droite et à gauche. Et puis, on s'aperçoit que finalement, c'est pas mal. Alors, si un jour on vous demande qu'est-ce que vous avez fait cet après-midi, vous avez fait là, qu'est-ce que vous avez donc fait? Alors, vous répondrez, nous sommes rentrés dans la sagesse de l'énosis. Ah, je vois que vous avez bien écouté tout à l'heure. Nous sommes rentrés dans la sagesse de l'énosis, l'unification, l'énosis. Ce qui vient de N, l'un, l'N c'est un, et en même temps c'est marrant parce qu'en grec N qui veut dire le taux N, c'est-à-dire l'un, en grec, vous voyez, c'est la N, c'est la même chose, ça veut dire en même temps un, et ça veut dire en même temps dans. Oui, c'est en. Oui, d'ailleurs, on le voit bien, en. Mais en. En français aussi, d'ailleurs. Mais enfin, sauf que c'est. c'est pas en. Enfin, c'est dans, vous voyez. Le taux en. Et les nosis, donc, vous voyez, c'est. Par exemple, quand on dit. La, vous avez aussi la kénosis, qui est l'anéantissement, vous voyez. Quand, dans la Bible, vous savez que Jésus est passé de l'existence de son éternité incréée et il est rentré dans la kénosis. La kénosis. L'anéantissement. C'est anéanti. Et c'est pourquoi kénosis, ex, ça vient. Ça, kénosis, vous voyez, c'est des choses très intéressantes au niveau étymologique. Pourquoi, parce que, pourquoi k, c'est quoi? Ça vient de ex, vous voyez, ex, hors de en latin. Ec. Hein? Vous savez ça, n'est-ce pas? Vous ne savez pas que quand c'est le terme ex, par exemple, je ne sais pas, je suis sorti hors de la ville. Ex. Je suis sorti ec, à l'extérieur. Je suis sorti, c'est une particule de sortie, de privation. Donc, c'est la privation, il est rentré dans la privation de l'unité, c'est ça. Il est rentré dans la privation, le Christ. La kénosis, si vous voulez, hein, c'est ça, l'anéantissement, la kénose du Christ. Si un jour vous voyez ça dans un article de la vie catholique, enfin ex-catholique, je sais pas, par exemple, hebdomadaire chrétien d'actualité, c'est pas bon. Eh ben, non, je pense, ils parlent plus de kénosis, ils sont complètement les pauvres. Mais dans un, vous voyez, dans un truc de théologie ou de spiritualité, dans un article de prier, dans un article dogmatique du 4e siècle après Jésus-Christ, c'est facile, la kénose, l'anéantissement du Christ. Vous voyez, il est sorti, ex, à l'extérieur de l'unification. Il est rentré dans la sortie de l'unification. Il est rentré dans le péché, quoi. Il est rentré, attention, dans les conséquences du péché. Il est rentré dans cette espèce de processus où l'unification est sortie d'elle-même. Vous voyez, ce principe d'unification qui vient donc de Dieu. C'est Dieu qui fait exister toutes choses et les ramène à lui dans un principe d'unification. C'est extraordinaire, l'énosis. Ça va nous dire quelque chose, quand même, l'énosis, l'unification. Et la kénosis, la kénose du Christ, vous voyez, il a fallu que le Christ sorte de cette espèce de principe de sagesse, d'unification, lui qui est la sagesse même, l'unification, l'énosis personnalisée, incréée. Il a fallu qu'il sorte de cette énosis par la kénosis, donc par la kénose de la croix, de la mort, et qu'il soit lui-même divisé substantiellement en lui-même, le corps et l'âme se sont séparés. Pour pouvoir, donc, engendrer dans la division produite par le péché une nouvelle unification, un nouveau niveau qui est un niveau donc miraculeux. Et ce miracle, c'est la participation à la grâce, la participation à la vie divine, à la vie. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, parce qu'on a vu tout à l'heure, justement, que l'unification se faisait par le point de vue de l'esprit, dans une sagesse originelle sans péché. Et Jésus, par sa kénose, permet à une nouvelle énosis, une nouvelle unification, par le point de vue non seulement de l'esprit, mais par le point de vue de la vie, par la grâce. Vous voyez, une espèce de très très grande, très très grande. Jésus, Dieu a été plus loin, j'allais dire, que les principes mêmes de la nature pour l'unification, puisqu'il va jusqu'au fond même des perturbations de la vie, en donnant la grâce pour se mêler à ces perturbations de la vie, et en utilisant ces perturbations vitales séparées, le péché, pour les brûler dans une participation à la vie divine. Alors, il va créer une méta-vie. Une méta-vie. Oui. Puisque au point de vue de spirituel, de l'esprit, l'esprit s'est séparé du corps, s'est séparé de la chair. La chair va dans un sens, l'esprit dans un autre. Le péché introduit ça. Alors, il s'introduit dans cette division et va plus loin, il dépasse par le point de vue de... en donnant sa vie. Il donne sa vie, qui est une vie incréée, qui est une vie divine. Et si je participe à cette vie divine, je reçois la grâce. La grâce est une participation à la vie divine. Attention, c'est plus humain, ça n'a plus rien d'humain. Ça n'a plus rien de plus rien. Plus rien d'humain. La grâce n'a plus rien d'humain. Ah, je sens que j'ai la grâce. Quelqu'un vous dit, ah, ça y est, je sens la grâce. Vous pouvez rigoler sous cap, hein. Vous ne vous moquez pas ouvertement quand même. soyez charitable. Mais quand même, en tout cas, il y en a un qui rit, il y a des éclats de rire épouvantables, c'est la bête. Il me confond avec la grâce. Formidable pour lui. Bon. Et donc, mais non, on ne peut pas ressentir la grâce. La grâce n'a rien à voir. C'est une participation à la discipline. Épître de Saint-Pierre. La grâce est une participation à la vie divine. Et la vie divine, vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Il se trouve que la vie divine en Dieu, la vie et l'être en Dieu sont une seule chose, qui ce n'est pas, c'est la même chose, égale, absolument égale. Parce que nous, la vie et l'être, comme on l'a vu tout à l'heure, non, rien à voir. C'est totalement distinct, voyez. Mais en Dieu, la vie et l'être. Alors, si bien que quand, par sa kénose, voyez, il divise en lui, il ouvre la porte de sa kénose, il donne sa kénose aux hommes, c'est-à-dire sa division par la croix. Vous voyez, cette séparation, cette division, cette crucifixion, vous voyez, cet écartèlement entre la divinité et son humanité concrète, le corps, et ça fait une ouverture extraordinaire, et ça fait venir quoi ? De la grâce. Ça fait venir l'intériorité vitale de son être totalement vivant, de sa vie totalement être. Et si je participe un tout petit peu à cet écoulement délicieux de vie divine qui n'a rien à voir avec la vie humaine en moi, alors à ce moment-là, je suis repris dans un nouveau processus de sainteté, d'union à Dieu, de transformation, de sanctification, de mariage. Vous voyez, vous retrouvez les mêmes étapes que tout à l'heure, identité, fraternité, sponsalité, paternité, et enfin, vision béatifique. Alors, ce qui est un petit peu la nostalgie de tous les philosophes, de trouver l'aspect concret d'une réalisation faisable, d'une unification absolue et parfaite, laquelle personne n'est arrivé. C'est toujours des philosophies qui sont des philosophies nostalgiques. Et bien, le Christ nous propose, donc, nous a proposé par une voie qui n'est pas philosophique, par une voie qui est miraculeuse, hein, puisque c'est par la voie de la grâce. Hein, la grâce ne redonne pas une santé naturelle, spirituelle perdue. Pas du tout. Elle ne nous remet pas au paradis terrestre. Mais elle nous met dans la dislocation divine et humaine de Jésus. Et je rentre dans cette dislocation dans un grand cri qui est en même temps dans notre temps et un cri qui est en même temps dans l'éternité puisque Jésus crie ce même cri que moi. Et à ce moment-là, je suis fils avec le Fils et j'ai la même vie que celle du cœur de Dieu. Cœur, c'est la kénose, de Dieu, c'est le Verbe. Et voyez, comme Jésus, sur le point où tous les hommes, athées, pas athées, dialectiques, pas dialectiques, métaphysiciens, pas métaphysiciens, ontologistes, scientifiques, etc., qui cherchent toujours l'unité, l'unification, la perfection, l'absolu, l'amour, la communion, l'harmonie, etc., la solidarité, tout ce que vous voulez, le bien commun. Là où tous sont en attente, là où tout le monde est d'accord, là où il y a le grand œcuménisme de toutes les pensées humaines sans exception, Jésus vient en dessous. C'est ça qui est extraordinaire. Il vient en dessous et il met le calme dans son silence et sa kénose. Ça, c'est quand même quelque chose de très très fort. À ce moment-là, on peut commencer à comprendre donc expérimentalement qu'est-ce que c'est, en quoi effectivement
grâce à cette division dans laquelle Jésus s'est mis, s'est arraché à ce monde cosmique par l'amour en nous laissant, j'allais dire, une porte ouverte, nous qui sommes dans la division. Voyez, et c'est pour ça qu'il y a l'Eucharistie. L'Eucharistie est là pour qu'il y ait son corps séparé de son éternité. C'est parce qu'un prêtre, quand il dit la messe, il va immoler Jésus, Dieu, le Verbe incarné, et renouveler réellement, substantiellement, ousia, actuellement, energeia, surnaturellement, sacramentellement, corporellement, et réellement et totalement, la séparation et l'immolation dans laquelle il s'est introduit sur la croix, quand par l'amour, il s'est arraché à son corps, et il a laissé son corps dans cet état de cri silencieux. Et le prêtre, il ne faut jamais l'oublier, est en train d'immoler à nouveau le Verbe incarné, l'agneau de Dieu. C'est une immolation. Et en faisant ça, Jésus est tellement content de faire ça, par les mains du prêtre, par les mains du corps mystique de l'Église, tellement heureux. Si on savait à quel point, c'est avec une joie infinie, une allégresse, une explosion de bonheur qui fait ça, parce que grâce à nous, il peut venir aimer à l'infini, en dessous de toutes les aspirations de l'homme pour y reprendre. Il l'a fait une fois pour toutes, mais il veut corporellement, personnellement, physiquement, être présent dans l'instant présent grâce à nous, et aimer à l'infini à travers nous, le temps dans lequel nous sommes, l'instant dans lequel nous sommes, et l'universalité des créatures dans l'instant où nous sommes. Alors, il arrive en nous, grâce à nous, vous voyez, il peut à nouveau retrouver son immolation, sa kénose, et renouveler l'unification. Voilà pourquoi l'Église est fondamentalement œcuménique. Elle est d'abord unité, unification. Ah, de l'extérieur, ça ne se voit pas. Hein. De l'extérieur, ouais. Tu ne peux pas voir ça. Non, tu ne vois que quand tu es à l'intérieur, tu vas voir. Unification. C'est pour ça que l'œcuménisme, vous voyez, il y a des consonances entre l'œcuménisme et l'Église. Voilà. Alors, ça, pourquoi est-ce que donc je vous dis ça? Je vous dis ça parce que le Saint-Père, avant de reprendre donc une unité et trinité, parce que quand même, l'unité et la trinité de Dieu ne peuvent, finalement, on ne peut y voir clair pour l'unité et la trinité de Dieu que si on rentre dans la fenêtre qui nous permet de la voir. Et cette fenêtre, c'est précisément le mystère du Christ, c'est le mystère de Jésus, c'est Jésus. Quoi. Si on rentre en Jésus, oh, tiens, on découvre cette espèce d'extraordinaire présence totalement une de Dieu. Il est présent. Il est présent. Dieu est présent. Alors, essayez d'être présent, d'être attentif à sa présence. Et ça, si on veut que ce soit total, que ce soit fécond, que ce soit réel, eh ben, il faut le faire avec le Christ. C'est avec Jésus qu'on peut découvrir le face-à-face avec le Père dans la production de l'Esprit Saint. Et à ce moment-là, c'est une vision de l'acte éternel de Dieu, de l'instant éternel de l'acte d'unification divine. Alors, si j'ai le temps, je reviendrai, je vous citerai quelques petits passages du Saint-Père là-dessus. Parce qu'il faut absolument que nous puissions voir comment ce pape, qui est le premier pape philosophe de toute l'histoire, il n'y a jamais eu dans toute l'histoire de la chrétienté, et de l'Ancien Testament c'est pareil, donc depuis Abraham, on n'a jamais vu un Hachi d'Israël ou un pape philosophe. C'est la première fois. Lui, vous savez bien que c'est ça. Il était professeur de philosophie, maître en philosophie. C'est comme le dernier qu'on a canonisé, là. Vous savez, Saint Jean Gabriel. Ciao, ciao. Saint Jean Gabriel, crucifié en Chine. Crucifié en Chine, un vendredi. C'est extraordinaire, un vendredi, après-midi. Livré par un de ses disciples, qui était catéchiste, pour 30 pièces d'argent locales. Extraordinaire. Et puis, les nuages se sont accumulés. Alors, du coup, on ne l'a pas enlevé de la croix le lendemain samedi. On a attendu le dimanche. 10, 11, 12, 13. Alors, quand on a sorti de la croix, les nuages se sont séparés et il y a eu une croix glorieuse. Il y a une croix glorieuse qui est apparue. Pas seulement à l'endroit où on le sortait, où on l'enterrait, 13 septembre 1840. Vous voyez, c'est 13 septembre, c'est la première veste de la croix glorieuse qui est le 14 septembre. Mais elle a été vue sur 600 km jusqu'à Pékin. Nombre de Chinois qui l'ont vu, vous savez combien il y a de Chinois ? C'est incroyable. Et le Saint-Père l'a canonisé le 2 juin dernier. Et on a fêté pour la première fois sa fête dans toute l'Église universelle le 11 septembre dernier. Juste avant que Saint-Père n'arrive en France. Hein ? C'est pas mal. Génial, ça c'est des petites choses qui sont intéressantes. Pourquoi est-ce que je parle de Saint-Jean Gabriel Clairvoy ? J'en sais rien. C'est parce que je parle de la croix. Pourquoi ? C'est mon intelligence éclatée, vous voyez, qui fait que on va revenir un petit peu à l'axe. Parce que j'avais parlé juste avant de parler de Saint-Jean Gabriel Clairvoy, j'avais parlé de l'Eucharistie. J'avais parlé encore d'autres choses. Le premier pape philosophe. Le Saint-Père, c'est le premier pape, vous voyez. Le premier pape philosophe. Eh bien, Saint-Jean Gabriel Clairvoy était aussi professeur de philosophie à Reims. Et à Amiens. Professeur de philosophie. Hein? Et vous êtes ici en face de quelqu'un qui, justement, n'est pas professeur de philosophie. Mais il les aime. Et c'est la première fois que dans l'histoire, donc, de l'humanité, le représentant de Dieu est philosophe. Ça, c'est quand même très important. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a voulu, voyez, que ce soit un philosophe? Pourquoi ? Parce que le philosophe, c'est celui qui saisit toutes les interrogations de l'homme. Ça prouve au niveau eschatologique, si on veut bien lire de manière prophétique cette intention du Saint-Esprit, vous voyez, ça prouve simplement qu'on est à un moment où Jésus veut renouveler sa kénos pour réaliser la réponse à l'aspiration philosophique universelle, tout simplement. S'attendre à une... Il y a quelque chose, c'est le Saint-Jean-Baptiste, si vous voulez. Saint-Jean-Baptiste. Il y a une réponse où on retrouve l'unité, vous voyez, enlever les vallées, combler les vallées, raboter les montagnes, élargissez les chemins, convertissez-vous, unifiez-vous, ouvrez-vous. C'est ça que dit Saint-Jean-Baptiste. Convertissez-vous. Faites pénitence. Préparez-vous. N'ayez pas peur. Préparez-vous. Ne vous inquiétez pas. Préparez-vous. Espérance. Confiance. La joie. La joie de l'amour du Christ revient. Et le Saint-Père est là pour ça. Et c'est pour ça que c'est très important de regarder au fond ce qu'il dit ici, de ce point de vue-là. Bon, ici, il nous dit dans le jubilé de l'an 2000, un de ces derniers, alors qu'approche le troisième millénaire de l'ère nouvelle, Et là, il nous dit des choses qui sont très importantes. Il faut regarder du côté du Christ. Et il faut vivre du Christ. Et il le dit, ça je ne vous apprends rien en disant ça, bien entendu. Je suis sûr que ce n'est pas nouveau pour vous. Mais ce qui est nouveau, c'est la manière, les mots qu'il choisit pour le dire. Ça, c'est nouveau. C'est ce qu'on appelle la christologie. La manière, christologie, le logos sur le Christ, le discours sur le Christ du Saint-Père. Il a un discours, une manière de le dire qui est complètement originale. Et puisqu'on est, on vient de voir sa visite, je trouve que c'est quand même un petit peu normal de regarder sa manière de le dire, qui est quand même complètement... À partir du moment où je vais saisir sa manière de le dire, comme ça, ça fait en même temps philosophie, puis en même temps une petite culture générale, puis en même temps, ça nous fera un petit peu du bien pour notre vie chrétienne aussi, parce que la philosophie, hein, c'est une petite parenthèse de temps en temps, hein. Bon, petite parenthèse là-haut, là, hein, du côté de Jésus. Et là, une fois qu'on saisira précisément la présence concrète, vitale, vivante, humaine et divine de Dieu, qui veut unifier à ce moment-là, on va pouvoir essayer d'avoir un regard et comprendre peut-être ce mystère qu'il a révélé et qui a été révélé dans le Christ, à savoir que Dieu est un et trois, que Dieu c'est l'un en soi. La preuve que c'est en soi, c'est qu'il est trois. Ça c'est une preuve. Hein. Puisqu'il est trois, puisqu'il y a trois personnes, donc il est en soi un. C'est important ça, parce qu'il y a des gens qui ont dit il est trois, s'il est trois, c'est hors de soi. Si Dieu est trois, la très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, le sabellianisme, n'est-ce pas? Le sabellianisme, c'est Sabellius, un des tout premiers hérétiques de l'histoire de l'Église. Sabellius, le sabellianisme. Vous avez jamais entendu parler du sabellianisme?
Non.
Et un hors de soi. Enfin, Dieu est un. Adonai Echad, en hébreu. Adonai Echad. Echad. Dieu est un. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Puis si vous êtes juif, vous êtes prié de le dire en criant. Moi, je suis juif, je peux le faire. Adonai Echad. C'est pour ça que quand on est arabe, on le dit beaucoup moins bien. On dit Allahu Akbar. Ça fait un peu castré, hein. Tandis que Adonai Echad. Pétard, ça pète plus, hein. Adonai Echad. Shema, écoute, Israël, Adonai, Had, Adonai, Elohenu. Le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est notre... Le Seigneur est... Ah! Alors, si il est Père, oui, il est un, source de notre unité. Ah, très bien. Ah oui, Dieu est lumière et sagesse, source de notre esprit. Ah oui, Dieu est... notre finalité, notre prédestination, notre amour, il est source de notre amour, source de tout amour. Voilà, c'est à l'extérieur de soi, vous voyez, c'est à l'extérieur de lui qu'il est trois, mais à l'intérieur de lui, il est un. Ceci est hérétique. C'est une hérésie formelle. Sabellius. Repris dans les temps modernes par, qui est-ce qui peut me le dire, le plus grand boa de l'histoire de la philosophie. Hegel, avant lui Schelling, si vous voulez. Hegel. Il suffit de le dire, Hegel. Cette boa. Hegel. Je préfère rien dire parce que... Il est un en soi. C'est ça qu'il faut comprendre, que là, ce que Jésus est venu nous dire, c'est que c'est en lui-même qu'il est Dieu. Et pourtant, il est face à Dieu. Et que, en lui-même, Dieu face à Dieu, il est source de Dieu. C'est en lui-même, éternellement. Et donc, s'il est trois éternellement, c'est donc qu'il est un en soi. Comme c'est important. Comme c'est important. Et comme, vous voyez, comme pour nous, hein, on peut, en tant que philosophe, utiliser la révélation chrétienne pour essayer de retrouver l'intériorité trinitaire de l'un en soi. Vous voyez, ce qui est relativement facile pour nous, parce que nous, on fait ça automatiquement. On fait ça automatiquement. Bien sûr qu'on fait ça automatiquement, puisque dès que vous touchez Jésus, vous dites « Mon Seigneur et mon Dieu, c'est lui qui fait que j'existe. C'est lui qui en ce moment fait que tout existe. C'est lui qui fait que tu existes. Elle, à savoir, Jésus est là, et il fait que tu existes. Tu te rends compte ? Et je me dis, tiens, si elle me regarde, elle ne se doute pas que je suis le lieu de la source de son être, puisque Jésus est en moi. Si elle s'en doutait, elle m'aimerait. Si elle le voyait, elle m'aimerait. Mais Dieu le voit, et c'est pour ça qu'il nous aime. Et c'est pour ça que l'amour est là. Vous voyez bien, il y a les trois. Et si Jésus est en moi, je dis mon Seigneur et mon Dieu, l'être premier, en qui tout ce qui existe participe du point de vue de l'être. Et en même temps, Jésus, qui est en moi, si je suis entièrement assimilé à lui, alors je suis présent à l'existence intime de Dieu. Et je m'aperçois que Jésus, lui, il est sans cesse en train de se donner au Père. Il se donne tout le temps au Père. C'est ce cri du retour et du repos dans le Père, dans l'origine même de son existence. De Dieu. Et du coup, ils se perdent l'un dans l'autre, et moi avec, puisque je l'accompagne en tant que chrétien. Ils se perdent l'un dans l'autre, mais il n'y a plus que l'amour. Dieu est amour. Donc, bien, c'est de l'intérieur, moi, que je vois bien qu'il y a trois, et que l'unité vient de l'en soi même, de la vitalité incréée de Dieu. J'en fais l'expérience à chaque fois que je vis de Jésus. Si je suis contemplatif, c'est ça que je vois. On ne peut pas ne pas le voir. Si on ne le voit pas, c'est qu'on est un imbécile. Ah, c'est qu'on n'est pas un enfant. C'est qu'on est trop compliqué. En fait, Dieu est simple. C'est tout simplement que Jésus est Dieu et qu'il retourne en Dieu pour réaliser avec son origine, lui qui est lui-même origine, une confrontation dans la lumière, une expiration dans la lumière, une source éternelle d'amour qui fait que Dieu est amour. Il ne reste plus que l'amour, la troisième personne. Et c'est bien de l'intérieur. Et c'est ce en soi de l'unification incréée de Dieu qui fait que Dieu est un. Vous voyez ? C'est pas l'un qui est source de trois, c'est trois qui est, j'allais dire, de l'intérieur, le principe de un en Dieu. Voilà ce que le Christ est venu nous révéler. C'est une révélation, ça. Ça, c'est une révélation, ça. Si bien que grâce à Jésus, grâce à l'Esprit Saint, grâce à... Je découvre quoi ? que l'un en soi, c'est la très sainte Trinité. Ce qui est assez extraordinaire. Et que, puisque Dieu est un et trois, ça prouve qu'il est donc un en soi. C'est une preuve théologique, hein, une preuve philosophique. Mais n'empêche que le chrétien en fait l'expérience dans l'union transformante. Shema Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Écoute Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Shema Israël. Adonai. Eloheinu. Adonai. Echad. Ah. Écoute, Israël, le nom Shem, le nom de Dieu, Shem, Shema, écoute, la présence de Dieu. Le Shem, c'est la présence actuelle et personnelle, vivifiante et efficace de Dieu. Donc, écoute. Ça, c'est un. Si Dieu est présent, il est un. Israël, dans l'admiration, Shema, Aleph, dans l'admiration et le silence, Israël, toi qui luttes contre Dieu. Et Sarah, elle. Plus exactement, elle, voyez, c'est toi qui luttes contre le regard de Dieu sur toi. Elle, c'est pas Dieu. C'est elle, c'est pas Dieu, hein, c'est le regard de Dieu sur toi. Donc toi, I, Sarah, qui lutte. Oui, Sarah, c'est quand Abraham s'est marié avec Sarah, il s'est marié avec quelqu'un qui lui gueulait tout le temps dessus. Ça, c'est ça, une femme. Une femme qui n'est pas tout le temps, il faut lui gueuler dessus, c'est pas drôle. Enfin, c'est pas toujours drôle non plus. Mais Sarah n'est pas commode du tout. Pas du tout commode. C'est pas du tout commode, Sarah. Sarah, elle est... Ben, ça s'est calmé, hein, parce qu'au départ, c'était Sarai. Hein. Sarai. Vous savez ? Sarai. Alors, Sarai, mais alors, attention, c'était une lutte perçante, hein, stridente. Tandis que Dieu a dit à Abraham, attention, tu ne t'appelleras plus Abraham, n'est-ce pas, Abraham, mais tu t'appelleras Abraham. Voilà. Allez, on va rajouter la vie contemplative. Le hé, le dialogue, face à face, la prière, la vie sacrée, la présence contemplative. La personne, quoi. Hein, c'est seulement à 70 ans qu'ils se sont découverts dans la communion des personnes. Sarai, du coup, ne s'appellera plus Sarai, mais Sarah. Peu de repos pour Abraham. Du coup, les deux se conjoignent et produisent dans leur unité sponsale Isaac, le sourire. Dieu me sourit. Sourire de Dieu. L'éclat de rire. Pas du tout un enfant détendu. Se laisse faire, qui est toujours heureux. Ah, tiens, je vais prendre le couteau, je vais t'égorger ce. Oh, super! C'est ça qui s'est passé. Avec le sourire! Et pourquoi tu me tortures pas un peu avant? C'est super! Non, moi, c'est extraordinaire! Il est donné dans une vie contemplative, il est détendu!
Il n'est pas là avec plein de nœuds, plein d'arènes de défense, des trucs comme ça, attention, mon père va me castrer, etc. Complaisant.
Pas du tout. Pourquoi?
Sarah, c'est une femme. Elle luttait, une lutteuse. Elle luttait pour Dieu, hein, Sarah. Elle luttait pour qu'il y ait la paternité, elle était stérile. Elle luttait pour la paternité, elle luttait pour la fécondité, elle luttait pour ça. Hein. De ce côté-là, elle était pénible. Mais alors, à partir du moment où il y a eu la contemplation, il y a eu la fécondité. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Extraordinaire. Alors, si on traduit ça en chiffres, alors là, je vous... Alors là, on est parti pour 5 heures à peu près. Non. Shema Israël, toi qui luttes, Israël, contre le regard de Dieu sur toi. Adonai, le Seigneur, Eloheinu, et notre Dieu, Adonai, nous, c'est notre. Elohim, Adonai, Echad. C'est extraordinaire, ça, parce que vous avez, regardé, Shema, vous avez la nom, la présence de Dieu, tu admires, toi qui luttes contre le regard de Dieu sur toi, Adonai, c'est le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur, est un. Un, deux, 3, 4, 5, 6. 6. Eh oui, parce que c'est normal, parce que ici, elle, c'est le regard de Dieu sur toi. Donc, c'est pas un créé. C'est le regard de Dieu sur toi qui lutte contre. Shema, c'est la présence de Dieu dans le temps, dans le monde, sa présence personnelle et efficace. Erad, c'est une propriété de cette présence et de ce regard de Dieu sur toi. C'est bien qu'il ne reste plus que... Donc c'est trois. Dieu est présent sous trois formes. Il est unification. Il est présence. Il est regard. Il est regard efficace, créateur, contemplatif et aimant. Pourquoi? Parce qu'en lui-même, il est trois. Pour nous, il est trois. C'est pour ça qu'il y a trois fois Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et ça, c'est la première phrase qu'un petit juif apprend à l'âge de 4 ans à prononcer. Shema, Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. C'est extraordinaire, cette histoire de révélation de l'unité. Et vous voyez que la révélation de l'unité est que la première fois avec Abraham, etc. On apprend ça, et bien on voit qu'il y a la Trinité. D'ailleurs, les rabbins le disent, vous voyez bien, il y a trois hypostases. Dans le nom de Dieu, il y a trois hypostases. Eh oui, il est un. Et vous voyez bien que c'est cette Trinité incréée qui fait qu'il est un en lui-même, un pour nous, un pour tous. Et un éternellement. Voyez, alors ça, c'est quand même quelque chose de très important. Donc, pourquoi est-ce que je disais ça? C'est que vous avez eu, dans l'histoire de l'Église, énormément d'hérésies sur la très sainte Trinité. Voyez? Oh, il y a sûrement de la place. Il y a de la place, hein? On va vous trouver une place. Là, à côté de Marthe, là, il y a... Oh là là. Alors, mon intention avec vous, c'était pas de vous expliquer des choses que vous saviez. C'est pas, je voudrais avec vous essayer d'approfondir ça et de regarder comment l'Église, très très vite, hein, très 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 vite, devant les hérésies de Sabellius notamment, vous voyez, les hérésies, toutes sortes d'hérésies, les hérésies sur la Sainte Trinité. D'abord, premièrement, Dieu existe Dieu existe et c'est la première chose. Dieu existe.
Dieu existe ou il n'existe pas? Est-ce que, il y a un passage du Saint-Père qui l'a dit d'ailleurs, je crois, en France, il a dit, le problème n'est pas de savoir si Dieu existe. Le problème n'est pas de savoir si les gens, si on est dans une société où Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Le problème n'est pas du tout ça. Le problème n'est pas de savoir si y a de l'athée, si tout le monde est athée ou pas athée, quoi. C'est pas le problème, ça. C'est pas un problème, ça. C'est génial. C'est pas un problème.
Mais oui.
Bon. Moi, j'aurais pensé que c'était un problème. Mais enfin, lui, il dit non, c'est pas un problème, ça. C'est pas un problème. C'est pas un problème de savoir si y a de l'existence de Dieu ou pas. Dans la tête des gens, dans la vie des gens, dans la société. C'est pas un problème, hein? Moi, j'aurais pensé que c'était un problème, justement. Mais oui, non, c'est pas un problème. Le seul problème qui existe, et aussi, vous avez aussi le... Il dit, c'est pas un problème de savoir si le Christ existe dans la vie du monde. C'est pas un problème, ça. Le seul problème, c'est notre présence au Christ. Notre présence à nous, à Dieu. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, tout le monde, apparemment, là, tout va mal. C'est la débandade. C'est le monde va à sa perte. Le péché partout. L'athéisme partout. Le démon est rentré partout dans l'église, hors de l'église, dans le monde, machin, truc, l'antichrist, etc. Enfin, la fin du monde, enfin, vraiment, c'est l'apocalypse, le châtiment. Voilà, c'est vraiment le problème numéro un d'aujourd'hui. Satan est là. Voilà le problème numéro un d'aujourd'hui. Saint-Père dit, ça, c'est pas un problème du tout. Où est-ce que vous voyez un problème là-dedans, vous? Moi, je ne vois pas de problème. Le seul problème, c'est notre présence à celui qui est le Christ. C'est que je sois moi-même présent au Christ. Voilà mon seul problème. Et il a montré un petit peu en France, si vous voulez. Toutes les divisions, ça va être la guerre, l'anarchie, les combats de rue à cause de la venue du pape, il va y avoir des morts sanglantes, etc. Enfin bon, des trucs épouvantables, enfin, et puis il vient mettre la zizanie, etc. Lui, il dit, Sœur Jules, il n'y a pas de problème. L'Église, le pape, vient en force. Et il vient. Et son problème, c'était d'être présent au Christ. C'était son seul problème. C'était son seul problème. Il n'avait aucun autre problème. De savoir si c'était le baptême de Clovis, le baptême de Germaine, le baptême de Chirac, ou la confession de Giscard d'Estaing. Je veux dire, c'est complètement le baptême de la France. Mais ça fout. Et heureusement, moi aussi je m'en fous. Et son problème, c'était que il était présent au Christ. Puis c'est tout. Lui. Alors du coup, le Christ était présent à toute la France. Puis c'est tout. Il n'allait pas dire, oh le Christ n'est pas présent en France. Le Christ, Dieu est absent. Dieu a quitté la France. La grâce n'est plus en France. Vous voyez ? Voilà le gros problème de la France aujourd'hui. Voilà. Ce n'est pas un problème. C'est d'être présent existentiellement, personnellement, au Christ, lui. Alors du coup, ça change tout. Tout est changé. Vous voyez, c'est ça, être une personne humaine. Quand il trouve en lui purification et temporelle et spirituelle et corporelle et subsistante et actuelle. Elle touche donc la personne même du je suis de Dieu et elle place son je suis dans le je suis du Christ. C'est le seul problème. Il n'y a pas d'autre problème. C'est ce qu'il avait dit, vous vous rappelez, à Shestokova, tu y étais au choix. Il a dit aux jeunes ça, à Shestokova, il dit voilà ce qu'il faut faire. Mettre notre je suis dans le je suis du Christ. Vous voyez la différence qu'il y a entre d'ailleurs l'être, je suis, Marie-Laure existe. Ça j'en suis sûr. J'en suis absolument sûr. Elle existe. Alors, je perçois, je touche l'être. Et même, je peux saisir de l'intérieur l'être, l'existence, à condition que je touche en elle la subsistance, Lucia. Et même ce qu'il y a de parfait et de perpétuel, subsistant. Depuis le début jusqu'à la fin, laquelle la fin n'est plus dans le temps, elle est dans l'éternité, dans un instant éternel. Eh bien, son existence-là est la même qu'ici. Première fois qu'elle commence d'exister dans le temps, la même. Eh bien, je perçois ici l'odeur de cette perfection, perpétuelle d'ailleurs, de cet acte. Elle, quand je suis présent en acte à mon être, je suis présent à ce que je suis dans l'acte pur, c'est-à-dire dans l'éternité. Et quand je saisis une personne, et dans le fait qu'elle existe, ce qu'elle est dans l'éternité, c'est-à-dire quand, ce qu'elle sera finalement, sous mode vital, ce qu'elle sera, ce plan métaphysique, ce qu'elle est déjà, dans son existence intime et intérieure et parfaite, éternelle. Et à ce moment-là, je peux dire, j'ai rencontré la personne. Je l'ai rencontré, cette personne. C'est la personne que j'ai touchée. C'est pour ça que c'est si important. Vous voyez ? Alors, Marie-Laure existe, c'est une chose, de toucher l'être. Mais elle, peut-être, qu'elle est complètement déconnectée par rapport à son être, parce que les bêtes, pour elle, il n'y a que le point de vue du miroir, des cosmétiques, des motos, etc. Des copains et boîtes de nuit. Alors, regardez, alors, du coup, la pauvre, elle est déconnectée. Son jeu n'est pas dans le est. Son jeu, c'est déconnecté. Et tout le problème de l'unification, ce sera de voir quand est-ce que Marie-Laure, selon ce qu'elle, selon justement sa perfection, selon son devenir, si elle est dans, uniquement d'un point de vue métaphysique, ou si elle est déjà advenue à un principe d'unification, d'énosis, qui fait que on peut dire quand on touche son est, que je touche aussi son je suis. C'est-à-dire que le je, Marie-Laure, est à l'intérieur du est. Ça, c'est très très important, parce que ici, je touche l'existence, donc la perfection métaphysique de Marie-Laure, et ici, je touche la personne. On devient une personne. On devient progressivement une personne. Une personne, c'est quand il y a une unification qui se fait entre la personnalité, si vous voulez, entre nos actes extérieurs et vitaux, conscients, et puis la pérennité de la perfection dans l'ordre de l'éternité, de la subsistance et de l'acte pur. Son épanouissement final. Alors à ce moment-là, lorsque les deux sont en connexion vitale permanente, je suis une personne. Et vous voyez bien que je suis de temps en temps une personne, à d'autres moments non, et de plus en plus je deviens une personne. Eh bien c'est mon je suis que je dois mettre dans le je suis de Dieu. Voilà ce que dit le Saint-Père. Bon. Dieu existe, c'est une chose. De la même manière, vous voyez, Dieu existe. Il existe. Je touche l'existence, je me touche. Je vois que j'existe. Et le fait que j'existe fait que me permet de réaliser que que ça vient pas de moi, que ça vient d'une présence actuelle, créatrice de Dieu. Et Dieu existe aussi. Pourquoi est-ce que je ne suis pas en sécurité, métaphysiquement? Pourquoi est-ce que je suis un petit peu étourdi? Parce que je ne suis pas en présence de celui qui fait que j'existe. Et que parce que je ne réalise pas que mon existence me met en présence, en toucher immédiat, et dans ce lieu-là, immédiat, c'est pas là-haut, hein. C'est là, j'existe, je suis lié physiquement, métaphysiquement, à l'être premier, à celui qui existe. C'est une participation à l'existence de Dieu. Mon être est une participation à l'existence de Dieu, à l'être premier. Quand je me touche, je vois, je touche, je suis en contact avec l'existence de l'être premier. Et quand il m'a créé, il n'a rien rajouté à ce qu'il est. Quand Dieu m'a créé, il n'a rien rajouté à ce qu'il est. Répétez-vous ça 800 fois par jour, enfin au moins 10 fois par jour. Puis 100 fois, vous ne le ferez pas alors. Quand Dieu est en train de faire que j'existe, il ne rajoute rien à ce qu'il est. C'est une participation à l'existence. Et le seul qui existe, c'est Dieu. Moi, j'existe, ça je constate. Mais le seul qui existe, c'est Dieu. Et donc, l'existence, c'est une participation à l'existence de Dieu. Donc, la première chose que saint Thomas va nous dire, d'Aquin, pour aller jusqu'à la très sainte Trinité, c'est toucher l'existence de l'être premier. Ah, mais il existe, lui, d'une manière différente de moi, puisque moi j'existe d'une manière limitée, j'existe, je ne suis pas la source de tout ce qui existe, et tous les gens qui existent, ce n'est pas moi qui les fais participer à l'existence. Hein? C'est pas une part... Si je touche ton être, il dit « Ah, ton être, c'est qu'une participation à mon existence à moi. Hein? Hein? Tu n'es qu'une étincelle de moi. Et t'es rien du tout. » Et non, c'est pas ça, tu peux pas dire ça. Voyez, il a une manière d'exister, Dieu existe, c'est l'être premier, il est acte pur, l'être premier, éternellement. Il fait qu'une participation à l'existence puisse être, avoir un visage incarné dans le temps, et ça fait un être humain. C'est pour ça que c'est si important, si vous voulez, au niveau... religieux, de toucher le point de vue de l'être en moi, parce que c'est là où je suis en contact réel avec l'être premier. C'est pour ça que c'est si facile à ce moment-là de faire spontanément un acte de respiration métaphysique et de toucher expérimentalement l'existence de l'être premier. Et de se remettre totalement là où je suis, c'est-à-dire là où mon être est, et il est totalement lui-même, dans l'existence de l'être premier, puisque c'est une participation de l'être premier. C'est là où je trouve l'origine même, l'identité même, l'odeur exacte de mon être. Mais c'est une odeur transcendantale, si je puis dire, transcendante. Oui. Alors, à ce moment-là, mais oui, mais Dieu, il n'existe pas de la même manière que moi. Moi, j'existe avec... deux jambes, des bras, un corps, une âme, complexité, etc. J'ai une composition, moi, il y a de la matière, il y a de l'esprit, il y a de la vitalité, il y a de la lumière. Et toute chose qui existe, c'est pareil, c'est une composition. En Dieu, il existe sans aucune composition. Il n'y a rien. Il n'y a pas une composition de corps et de vie en lui. Non. Il n'y a aucune composition en Dieu. Dieu existe d'une manière totalement... C'est-à-dire qu'il exclut toute composition. Il n'y a rien de composé en Dieu. Il ne rassemble pas des éléments épars. Vous voyez, il ne rassemble pas, entre parenthèses, Dieu n'est pas le rassemblement des trois personnes. Il n'y a aucune composition en Dieu. Il est infiniment, absolument, actuellement, totalement, être, acte pur, excluant toute composition de quoi que ce soit, avec quoi que ce soit, qui que ce soit, avec qui que ce soit. Et ça, c'est quand même quelque chose de très très fort. Vous voyez, si vous voulez, quand saint Thomas nous dit ça, il nous donne la voie d'accès à une sagesse d'union avec notre Dieu créateur. Donc la première chose à toucher, c'est faire la démonstration et le toucher de l'existence du créateur, de l'être premier. Et une fois que je suis en contact métaphysique par la substance même de mon être et par la perfection de l'existence de mon être, à l'intérieur de l'activité éternelle créatrice de Dieu, je m'aperçois que lui, c'est un être qui existe sans aucune composition. Il est infiniment simple. C'est ce que dit saint François d'Assise. Ça, c'est le grand truc de saint François d'Assise. Si vous voulez savoir la clé de la contemplation de saint François d'Assise, du côté donc de l'adoration, c'est ça. Je touche l'existence de Dieu à toute chose, et il n'est composé en rien, il est infiniment simple, il existe. La première chose que je vois, alors du coup, toute la simplicité de Dieu, cette simplicité, il n'y a pas de trucs qui sont collés les uns aux autres, c'est pas un pot éclaté, bon Dieu, c'est pas un rassemblement d'étincelles pour faire un incendie, pas du tout, c'est pas une composition d'étincelles pour faire un grand feu, pas du tout. Dieu existe, il est infiniment simple. La première chose quand je rentre dans l'être, de l'être premier, par le point de vue spirituel de mon existence, à ce moment-là je m'aperçois qu'il n'y a aucune composition. Il est infiniment simple. Une simplicité existante. Je touche, fais un jugement d'existence sur la manière infiniment simple d'exister de Dieu. Tandis que moi, j'existe d'une manière qui n'est pas simple. Ma manière d'exister n'est pas toujours très simple. C'est pas... Et alors, la deuxième chose, du coup, que je vois, c'est que cette simplicité est surabondante. Sa manière d'exister est actuelle. Il existe, j'existe, il existe, mais d'une manière actuelle. D'une manière surabondante, plénière, parfaite, finale. Surabondante, plénière, parfaite, et je touche la perfection de l'existence de Dieu. Dieu existe d'une manière parfaite. Tout de suite, si je perçois la simplicité de l'existence de Dieu, vous voyez, c'est du côté de la lumière, ça. Je touche en même temps sa plénitude, c'est du côté de l'amour, la perfection. C'est une surabondance d'existence. C'est pour ça d'ailleurs, c'est ce qui explique qu'il est infiniment simple, et c'est ça aussi qui explique qu'il existe. Et la troisième chose, si vous voulez un jour faire une oraison de philosophique, ça c'est une oraison philosophique que je vous fais en ce moment, c'est philosophique ça, hein? C'est qu'à ce moment-là, vous vous apercevez que s'il est perfect, parfait en lui-même, il surabonde en lui-même et en tout ce qui existe, puisque tout ce qui existe est une participation à son existence, et donc il imprègne de sa perfection et imprégné de sa perfection tout ce qui existe et notamment soi-même, ça s'appelle la bonté. Donc c'est la bonté en soi. C'est le bien en soi. Alors je suis dans l'amour en soi. Je suis dans l'amour lui-même, dans l'amour pur. Sans aucune composition d'autre chose que l'amour. Un amour pur. Un amour qui est communicatif. Et cet amour est si communicatif de lui-même qu'il n'a aucune limite. Et effectivement, cette existence est une communication surabondante amoureuse de lui-même. À lui-même. Dans une perfection totale. Et ceci sans limite. C'est sans limite. Il a une manière d'exister qui est sans limite. Et c'est pourquoi, quatrième chose que je contemple et que je vis, qui m'étonne, si je suis vraiment éveillé d'une manière contemplative, je m'aperçois qu'il est infini. Vous voyez que Dieu est infini, il y a une manière d'exister qui est infinie, ça ne vient que en numéro 5. Il existe 2, simplicité, 3, perfection, 4, bonté en soi, amour, en soi. Alors voilà, toujours pareil, en soi, hein. C'est le en soi ici est très très important. Et 5, il est infini, c'est-à-dire il n'y a aucune limite à son amour intime de lui-même, sa surabondance de bonté, à sa perfection, sa plénitude, à sa manière, à sa simplicité et à sa manière d'exister. Il y a une manière d'exister qui est sans limite. Nous existons, nous avons une manière d'exister qui implique la limite. Parce qu'on commence d'exister à un moment dans le temps. Parce que lui, c'est sans limite. Mais même, indépendamment du temps, c'est sa manière d'exister qui est sans limite. Il est infini. Ce n'est pas une infinité du côté temporel. C'est une infinité dans la manière d'exister. Son être est sans limite. Et il faut le contempler, ça. Parce que ce que je vous dis, ça peut être des mots. Hein, vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer. C'est pour que vous fassiez à l'intérieur d'un jugement d'existence, votre esprit s'éveille et que vous touchiez ça. Mais oui, je rentre de simplicité. Et restez une minute sur la simplicité. Engloutissez-vous en Dieu totalement, totalement, totalement. Faites, j'allais dire, ce voyage métaphysique extraordinaire de réaliser la vérité et la réalité. Et là, vous apercevez que cette perfection est totale. Alors, elle surabonde, c'est l'amour. Et ça, c'est sans limite. Une manière d'exister sans limite, sans limite, sans limite, sans limite. Est sans limite. Et c'est parce qu'elle est sans limite que elle est immuable. Elle ne change pas. Immutabilité. Ça, je fais sortir la limite de Dieu et je fais sortir le mouvement de Dieu. Immutabilité. Ça, c'est négatif, hein. Donc je pourrais presque le mettre entre crochets. Et du coup, je fais sortir une autre chose, il est intemporel, c'est-à-dire, il est éternel. Je touche que l'être, l'existence de l'être premier, est un instant éternel. Il n'y a aucune temporalité dedans, aucun temps, aucune succession, aucun temps. Il n'y a pas de temps dedans. Son être n'est pas dans le temps. Son être intègre tous les temps, mais en même temps est en dehors de tout temps, de tout instant, de toute temporalité, de toute succession. Il n'y a aucune succession. Tandis que notre être est dans la succession. Vous voyez, c'est les manières d'exister. Mais ça y est. Et donc, je fais sortir le temps. Alors, je pourrais mettre ça entre parenthèses parce que c'est tout ce qu'il n'est pas. Voyez. Et je viens en huitièmement pour voir qu'il est un. Dieu est un. Et cette unité se découvre à l'intérieur de l'être premier. Se découvre à l'intérieur de l'être premier. Vous voyez ? L'un, le fait qu'il est un, ne rajoute rien à l'être. Alors ça, c'est très important parce que l'unité, la première question qui se pose, l'unité de Dieu que je découvre métaphysiquement en sagesse par ma contemplation, par sa réalité, sa présence, parce que je suis présent à lui, du coup je peux le voir, hein, c'est pas du tout, je peux le voir, c'est pas du tout en dehors du pouvoir de l'être humain, hein, de voir cette unité, à condition de passer, de se laisser prendre spirituellement par l'instinct contemplatif de l'homme qui se laisse prendre par la lumière de la vérité, de la réalité divine de l'être de Dieu. Il faut pour ça qu'il se laisse engloutir à l'intérieur de sa subsistance. Il subsiste d'une manière très simple. Nous, on subsiste d'une manière composée. On subsiste, notre âme subsiste dans un corps, c'est composé. Lui subsiste de manière sans composée. Et il est actuellement. Il est énergie, énergeia. Il est acte. Il est actuellement lui-même, parfaitement lui-même. Il existe en toute perfection, alors que moi je suis en puissance à la sainteté, en puissance à la personne. Je deviens une personne progressivement. Lui, il est acte pur. Et du coup, il surabonde dans cette bonté. Et là, je vois que je nage dans la bonté, l'amour pur, extraordinaire. À ce moment-là, l'amour exclut toutes les limites. Toutes les limites. Toutes les limites, il n'a aucune limite dans sa manière d'exister. Et ça, je le vois, vous comprenez. C'est pas tellement que je vous le dis, c'est que vous n'avez pas à le croire. Ça, je vous demande de ne pas me croire. Ça, c'est pas objet de foi, ça. C'est objet de science. La foi nous le dit aussi, hein, donc vous pouvez le croire. Mais c'est pas premièrement, parce que vous devez vivre ça, voir ça, toucher expérimentalement ça. Et vous pouvez le faire. Aristote est là pour nous en témoigner la vérité. Voyez ça, vous pouvez le faire. Vous le pouvez. Vous n'avez pas besoin d'Aristote jusqu'à Concile Vatican I. Vous pouvez le faire sans croire. Pas besoin de croire. C'est l'objet de science. Vous avez la science. Vous voyez, mais oui, mais oui. Vous donnez nouvel Isaac, vous comprenez? Nouvel Isaac. Alors, à ce moment-là, vous découvrez qu'il n'y a aucune limite, ni dans l'ordre, dans sa manière d'exister. Il n'y a aucune progression. Il est immuable. Il est éternel, un instant éternel. Tous les temps sont à toutes les perfections, toutes les... Il est un. C'est là que vous découvrez l'unité de Dieu. Vous voyez bien que ce sont des cercles, j'allais dire, on pourrait dire, voyez, vous, il existe, voilà, premier cercle. Il est substantiellement simple, c'est un deuxième cercle, mais en fait, vous voyez, c'est le même cercle. Il est actuellement, purement acte pur, c'est-à-dire parfait. Il surabonde en lui-même dans un amour pur, et c'est sa manière d'exister, et c'est ça qui fait qu'il existe. Du coup, cet amour exclut tout arrêt, toute limite. Là, vous le voyez, qu'il y a, vous baignez dans un océan sans limite d'être, métaphysique. Vous sentez bien que vous ne pouvez pas contempler ça si vous n'avez pas touché d'abord le point de vue de l'être. Hein. Ah, ça oui. Hein. Sinon, ça devient imaginatif. Hein. Oui, c'est tout à fait. Et alors, vous touchez l'un. Et l'un ne rajoute rien à l'être premier. L'un, c'est pas... Vous voyez, vous avez un être, et puis vous rajoutez une robe, c'est l'un. L'un n'est pas quelque chose qui se rajoute à l'être. Grâce à votre expérience contemplative d'union avec votre Créateur, mais de manière limpide, libre, lumineuse, humaine, mûre, adulte, à ce moment-là, vous commencez à voir par expérience humaine, spirituelle, contemplative, vous voyez, Concile Vatican I, tout cela. Et vous voyez qu'il est un, Adonai Echad. Il est un. Et une fois qu'il est un, quand vous revenez à notre pauvre terre, quand vous revenez à vous-même, vous vous apercevez que cette unité n'est pas victorieuse de tout, dans le temps où vous êtes, dans le devenir où vous êtes, dans les limites dans lesquelles vous êtes. Et c'est pourquoi il est évident que vous voyez, vous êtes conscient de cette séparation, de cette distance entre la nature et l'être divin. Et cet appel ne peut être comblé que par la médiation de Dieu, que par la médiation concrète et temporelle de Dieu. Et donc vous voyez que Dieu doit venir. Quand est-ce qu'il va venir? Dieu doit s'incarner. Jésus est là. Alors la foi commence, n'est-ce pas? La foi commence et vous croyez que celui qui vient sous le visage de Jésus en vous, dans votre adoration, dans votre union d'existence à l'être premier, à son amour. Vous voyez qu'il y a une descente comme dans un toboggan extraordinaire métaphysique. Et Jésus est là en vous, dans votre être. Hein. Et c'est Jésus qui est là. Et à ce moment-là, vous croyez qu'il est là. Qu'il fait le lien sacerdotal, le médiateur. Et à ce moment-là, vous voyez, il faut que ce soit... Il ne faut pas que ce soit un truc de la foi éthérique. Quoi. Pas la foi nouvel âge. Genre, ouais, je t'y crois, puis... C'est déjà héroïque de dire j'y crois, donc ça suffit. Mais non. Vous voyez, comme c'est un jugement d'existence de la foi. Ça. Un jugement d'existence de la foi. Donc, c'est à l'intérieur, le toboggan métaphysique, Jésus rentre. Il est là. Et à ce moment-là, je vais croire. Alors justement, qu'est-ce que nous croyons? Alors, Jésus est là. Hein, Jésus est là. Dans l'instant présent, Jésus est là. Et plus rien ne doit changer, puisque Jésus, plus rien ne doit changer, immutabilité, puisque Jésus est là, dans l'instant présent. Alors, si Jésus est là, je vais découvrir quoi? Je vais découvrir qu'il est envoyé. Et c'est Dieu, hein? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est Dieu. Il est envoyé. Il est envoyé. Voyez? Alors ça, c'est quelque chose de très, très fort. Il est envoyé et il procède son envoi, voyez, pour l'unification, pour l'énosis, par sa kénosis. Alors, rappelez-vous toujours, énosis, kénosis, n'est-ce pas? Vous voyez, il s'anéantit, kénosis, pour nous unir à Dieu, pour l'unification. Donc, il rentre dans la kénosis pour l'énosis. Et donc notre sujet, je vous rappelle, c'est l'énosis. Comment réaliser l'unification philosophiquement parlant, ouais. Bah, mais là, vous sentez tout de suite que je suis en train de vous expliquer que philosophiquement, on ne pourra pas y arriver. Mais philosophiquement, on peut sentir que l'énosis est nécessaire, qu'il est nécessaire de poser une unification jusque dans l'acte pur, que c'est impossible autrement. Et donc, on peut poser philosophiquement la nécessité, par démonstration, de l'existence d'un principe de réunification à l'éternité vivante de Dieu. On ne peut pas prouver, évidemment. Donc, on prouve la nécessité d'une kénosis, de l'existence d'une kénosis et d'une énosis. Alors, je vous signale que la nécessité de la kénose, c'est l'envoi du Fils, et l'énosis, c'est l'envoi du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous ramène en Dieu. Et le Fils est envoyé, vous voyez, pour nous, pour que Dieu soit présent. Et c'est une émanation, vous voyez, Dieu, voilà comment, c'est une procession. Alors ça, c'est la foi, hein. Alors là, c'est la foi. Vous êtes, si vous êtes chrétien, les chrétiens disent, il y a en Dieu, puisqu'il est créateur, et puisqu'il y a la création, eh bien, il y a une procession. Parce que Dieu doit ramener à l'unité éternelle toute la création, voyez bien, puisqu'il y a cette dyade, on s'aperçoit. C'est en sagesse impossible que ça demeure tout le temps. Par conséquent, Dieu envoie en effet son Fils, et c'est en tant que Fils qu'il est envoyé, donc, mais c'est Dieu seul qui peut être envoyé. C'est lui-même qui est envoyé. Et Dieu donc envoie, Dieu est envoyé. Et quand donc, Dieu qui envoie, c'est le Père. Il y a une origine, un principe. Arché. En arché. Dans le principe était le Verbe. En arché. Logos. Dans le principe, il y a le Logos, le Verbe. Esti existe. Être premier. Ça, c'est la première parole de l'évangile de Saint Jean. Et en même temps, il faut bien que, en effet, dans la kénose, le Fils reparte, et c'est ce que nous dit l'Écriture, le Fils repart, retourne vers le Père, pour, dans son unité avec le Père, disparaître et faire que procède une deuxième procession qui a toujours existé à l'intérieur de Dieu. Glorifie-moi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que n'existât le monde et la création. Et de cette procession, de cette unité, de cette perdition, cette course éperdue dans l'unité, perfection, bonté, existence, infinitude, immutabilité de l'unité sponsable, j'allais dire, entre les deux premières personnes, procède et émane Dieu lui-même. Procède une troisième réalité, une attraction de tout, une victoire de l'amour personnel de Dieu sur tout. Et comme il vient, j'allais dire, de l'unité des deux premières hypostases, eh bien, il constitue lui-même nécessairement une troisième hypostase, puisqu'on a dit qu'il n'y avait aucune composition en Dieu. Et on s'aperçoit que, et c'est grâce à la révélation chrétienne, donc, que on sait, du moins, la sagesse chrétienne indique que si Dieu est un en soi, eh bien dans l'intimité éternelle de la perfection d'amour de Dieu, c'est parce qu'il est vivant. Et son être premier, c'est sa vie. Ça, Aristote le savait déjà. Il n'y a aucune composition. Ce n'est pas une composition d'être et de vie. Il vit et son acte intérieur, c'est ça son existence. Et justement, s'il vit, son acte intérieur consiste à... est purement spirituel, Dieu est un pur esprit, il contemple. Donc, il contemple qui ? Il contemple Dieu. Dieu contemple Dieu. Dieu contemple, Dieu est contemplé. Donc, de sa contemplation procède un verbe. Pourquoi ? Parce que Dieu n'est pas mort. Dieu est vivant. Et donc, il vit. Et quelle est sa vie ? Il est sa vision béatifique. Il voit Dieu. Il est face à face. C'est le hein extraordinaire, le hein divin. Le face à face. Le face-à-face du Père et du Verbe, de l'époux et de l'épouse. Mais ils ne sont pas là en disant « Ah oh. !» Ils sont, ils vivent. Et cette attraction est tellement vivante et en même temps tellement subsistante et tellement actuelle et en même temps sans limite et en même temps parfaite et en même temps sans immeuble et en même temps une, que du coup il n'y a qu'une unité terminée, il n'y a plus deux, il n'y a plus deux, j'ai fini, il n'y a plus deux, alors il faut bien, il n'y a plus qu'un, il n'y a plus quoi, il n'y a plus qu'un, attends, non, il n'y a plus qu'une émanation, une émanation, et cette émanation à l'intérieur même de Dieu, qu'il n'y a plus deux, il n'y a plus un plus un, plus, il n'y a plus que cette émanation, c'est l'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils. C'est une troisième personne. Et vous voyez bien que c'est les deux processions qui expliquent pourquoi, comment, vitalement, spirituellement, contemplativement, dans le don et l'accueil du, dans le don et l'acte pur de l'acte intérieur de la vitalité incréée de Dieu, Dieu est un. Et c'est là qu'on s'aperçoit que c'est donc la vitalité de la communion des personnes, et ces communions de personnes, évidemment, ne peuvent pas dire qu'il y a trois personnes, donc trois est. Il n'y a pas trois est. Pas du tout. Il n'y a pas trois est. Il y a un seul est. Il y a trois personnes. Et on voit bien que puisque la révélation indique que c'est l'acte intérieur de la vie contemplative de Dieu, et bien on s'aperçoit que les personnes sont des relations. Ce n'est pas la relation, par exemple, j'existe, c'est pas du tout pareil, que je suis en rapport avec mon stylo. Je suis en relation avec mon stylo. C'est une relation, vous voyez. Je regarde le stylo, il y a une relation entre le stylo et moi. Et l'Église annonce par des conciles, je vous le lirai si vous voulez la prochaine, mais aussi par plein de trucs, que si tu ne crois pas que la première personne de la Très Sainte Trinité, la deuxième personne de la Très Sainte Trinité, la troisième personne de la Très Sainte Trinité sont des termes, des relations subsistantes, c'est un ordre métaphysique, ce sont des relations, et bien tu as perdu la foi. C'est une relation vitale, interpersonnelle. Et comme Dieu, tout en Dieu, il n'y a pas de composé, il n'y a pas son existence, puis les relations avec un autre, et bien ces relations sont forcément une personne par elle-même. Nous, quand on est en relation avec quelqu'un, ça ne crée pas une nouvelle personne. Ouais. Je regarde le stylo, paf, ça fait un autre être. Tandis que Dieu, c'est comme ça. Donc il faut comprendre, si vous voulez, et on reprendra cette histoire des deux processions peut-être, pour essayer de comprendre comment de là, on va pouvoir, retrouver les traces de notre source d'unification, déjà sur un philosophe. Et puis ensuite, on essaiera les fois prochaines, de regarder comment retrouver, cette espèce de... les différents types d'unités, du coup, qui émanent dans notre vie concrète.